Avertissement pour les moralistes. Nos musiciens ont fait une grande découverte. Ils ont trouvé que la laideur, intéressante elle aussi, était possible dans leur art. C'est pourquoi ils se jettent avec ivresse dans l'océan de la laideur, et jamais encore il n'a été aussi facile de faire de la musique. Maintenant, on a conquis l'arrière-plan général, de couleur sombre, où un rayon lumineux de belle musique, si petit fut-il, reçoit l'éclat de l'or et de l'émeraude. Maintenant, on ose provoquer chez l'auditeur la tempête et la révolte. Le mettre hors d'haleine pour lui donner ensuite, dans un moment d'affaissement et d'apaisement, un sentiment de béatitude qui dispose à goûter de la musique. On a découvert le contraste. C'est maintenant que les effets les plus puissants sont possibles, et à bon compte. Personne ne s'inquiète plus de la bonne musique. Mais il faut vous dépêcher. À tout art qui en est arrivé à cette découverte, il ne reste plus à vivre qu'un court espace de temps. Ah, si nos penseurs avaient des oreilles pour écouter, au moyen de leur musique, ce qui se passe dans l'âme de nos musiciens. Combien de temps faudra-t-il attendre avant qu'il ne se représente une pareille occasion pour surprendre l'homme intérieur en flagrant délit d'une aussi mauvaise action commise en toute innocence? Car nos musiciens sont bien loin de se douter qu'ils mettent en musique leur propre histoire, histoire de l'enlaidissement de l'âme. Autrefois, un bon musicien était presque forcé par son art de devenir un homme bon. Et maintenant? De la moralité du tréteau. Celui-ci-là se trompe, qui s'imagine que l'effet produit par le théâtre de Shakespeare est moral, et que la vue de Macbeth éloigne sans retour du mal de l'ambition. Et il se trompe une seconde fois, lorsqu'il se figure que Shakespeare a eu le même sentiment que lui. Celui qui est véritablement possédé par une ambition furieuse contemple avec joie cette image de lui-même. Et lorsque le héros périt par sa passion, c'est précisément là l'épice la plus mordante dans la chaude boisson de cette joie. Le poète a-t-il donc eu un autre sentiment? Son ambitieux court à son but, royalement et sans avoir rien du fripon, dès que le grand crime est accompli. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il attire diaboliquement et qu'il pousse à l'imitation les natures semblables. Diaboliquement, cela veut dire ici en révolte contre l'avantage de la vie au bénéfice d'une idée et d'un instinct. Croyez-vous donc que Tristan et Isolde témoignent contre l'adultère par le fait que l'adultère les fait périr tous les deux? Ce serait là placer les poètes sur la tête, les poètes qui, surtout comme Shakespeare, sont amoureux de la passion en soi, et non pour le moins de la disposition à la mort qu'elle engendre. Cette disposition où le cœur ne tient pas plus à la vie qu'une goutte d'eau au verre. Ce n'est pas la faute et ses conséquences fâcheuses qui les intéressent, Shakespeare tout aussi peu que Sophocle, dans Ajax, Philoctète, Oedipe. Bien qu'il eût été facile, dans les cas indiqués, de faire de la faute le levier du drame, on l'évite expressément. De même, le poète tragique par ses images de la vie ne veut pas prévenir contre la vie, il s'écrit au contraire. C'est le charme de tous les charmes, cette existence agitée, changeante, dangereuse, sombre et souvent ardemment ensoleillée. Vivre est une aventure, prenez dans la vie telle partie ou telle autre, toujours elle gardera ce caractère. C'est ainsi qu'il parle, en une époque inquiète et vigoureuse, qui est presque ivre et stupéfiée par sa surabondance de sang et d'énergie, en une époque bien pire que la nôtre. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous accommoder commodément. Le but d'un drame de Shakespeare, c'est de ne point comprendre. Crainte et intelligence. Si ce que l'on affirme maintenant expressément est vrai, qu'il ne faut pas chercher dans la lumière la cause du pigment noir de la peau, ce phénomène pourrait peut-être rester le dernier effet de fréquents accès de rage accumulés pendant des siècles, et d'afflux de sang sous la peau. Tandis que, chez d'autres races plus intelligentes, le phénomène de pâleur et de frayeur, tout aussi fréquent, aurait fini par produire la couleur blanche de la peau. Car le degré de crainte est une mesure de l'intelligence, et le fait de s'abandonner souvent à une colère aveugle est le signe que l'animalité est encore toute proche et voudrait de nouveau se faire prévaloir. Gris brun, ce serait peut-être là la couleur primitive de l'homme, quelque chose qui tient du singe et de l'ours comme de juste. Indépendance. L'indépendance, appelée liberté de penser dans sa dose la plus faible, est la forme de renoncement que l'esprit dominateur finit par accepter, lui qui a longtemps cherché ce qu'il pourrait dominer et qui n'a pas trouvé autre chose que lui-même. Les deux courants. Si nous essayons de considérer le miroir en soi, nous finissons par y trouver seulement les objets que nous y voyons. Si nous voulons saisir ces objets, nous revenons à ne voir que le miroir. Ceci est l'histoire générale de la connaissance. Le plaisir que cause la réalité. Notre penchant actuel à trouver du plaisir dans la réalité, nous l'avons presque tous, ne peut se comprendre autrement qu'en admettant que nous avons longtemps, et jusqu'à la satiété, trouvé notre plaisir dans les réalités. Ce penchant tel qu'il se présente maintenant sans joie et sans finesse n'est pas dépourvu de danger. Son moindre danger, c'est le manque de goût.